Vivait.
Alors, camarade Savitri Lévin, citez-nous par ordre chronologique tous les ouvrages que vous avez écrits durant votre vie, aussi bien les œuvres publiées que non publiées.
La première, c'est naturellement mes thèses de doctorat. J'ai écrit en premier lieu la thèse complémentaire, qu'on appelle la seconde thèse, la plus petite. Je l'ai écrite en 1928 et 28-29 en Grèce, parce que c'est là que je pouvais avoir la documentation. C'est un essai critique sur Théophile Kairis. Théophile Kairis étant un penseur grec moderne, né en 1784, mort en prison à Athènes en 1853 pour s'être opposé à l'Église orthodoxe. Alors j'ai essayé de montrer là-dedans, n'est-ce pas, que l'esprit de la Grèce moderne était exactement le même que celui de la Grèce antique, qui avait condamné Socrate à boire la ciguë parce qu'il ne croyait pas au Dieu, au pluriel, auquel croyait la cité, c'est-à-dire Athènes. Il fallait être de la religion d'État. Dans ce même esprit. Ma thèse principale, la simplicité mathématique, qui a été publiée plus tard, et qui est aussi une thèse de doctorat, date de 1934 ou 1935. C'est-à-dire, elle a été publiée en mon absence, imprimée en mon absence, et je suis revenu d'Orient en 35 pour la soutenir. Je l'ai soutenue à Lyon, les ai soutenues toutes les deux à Lyon, le 1er avril 1935. Voilà.
Là, ce sont toutes vos...
Les autres œuvres. La première, c'est en français, L'étang au lotus, que j'ai écrit de 1935 à 1936-37 à peu près. C'est mes premières impressions de l'Inde. Impressions d'avant 35 et impressions d'après. Il n'a été publié une fois, imprimé une fois, et quelqu'un est en train de le réimprimer en Inde même. C'est divisé en chapitres. Il y a un chapitre sur le train, sur la rue, sur la vie dans la rue, les vaches sacrées, etc. Et puis un voyage dans des quartiers, différents quartiers de Calcutta. Mon séjour à Mathura, un séjour d'un an, je l'ai décrit. Et puis ensuite, des réflexions sur l'Inde en général et sur ce qui peut être pareil en Inde et, n'est-ce pas, dans le monde idéal que nous aimons. Par exemple, l'idée du système des castes, l'idée du fait que plus un homme est de race aryenne en Inde et plus il est de haute caste. Les basses castes sont en général, des gens à peau sombre et qui sont des soudras et des intouchables, mais pas des aryens. Ensuite, j'ai écrit en anglais un livre qui a été publié par la Hindu Mission, l'organisation hindoue pour laquelle je travaillais, organisation qui défendait l'hindouisme, la tradition indienne, contre le communisme, contre le christianisme et contre l'islam, contre toutes les religions égalitaires, universelles. Et ce livre, ça s'appelle « Warning to the Hindus »,« Avertissement aux hindous ». Il est écrit en anglais et dédié non pas à un hindou, mais à l'empereur Julien, 360-363. Il y a un sous-titre à l'empereur Julien, au divin Julien, 360-363, empereur des Romains et des Hellènes, puisse l'Inde future rendre son rêve impossible une réalité d'un océan à l'autre, ou contribuer à rendre son rêve impossible une réalité d'un océan à l'autre, c'est-à-dire retour au paganisme, ou ce qu'on appelle le paganisme. Ensuite, j'ai écrit en 1940 ou 39 un petit livre qui s'appelle, en anglais toujours, Non-Hindu Indians and Indian Unity, les Indiens non-hindous et l'unité indienne. C'est un essai de réconciliation, si vous voulez, des Indiens et des Mahométans. Je dis aux deux de laisser de côté la religion, en proprement dite, et de penser au nationalisme indien qui se pourrait être aussi bien soutenu par les musulmans que les autres, si les musulmans étaient conscients que leurs ancêtres avaient tous été des hindous, de religion hindoue, et que les chefs-d'œuvre de l'art hindou ont été faits par les deux à la fois, évidemment, au Xe siècle, au VIIIe siècle, au XIIIe siècle, au temps où il n'y avait pas encore l'islam en Inde. Ensuite, après ça, je me suis occupée... Si, je me suis occupée de l'Égypte, l'Égypte ancienne. Et j'ai publié, je ne me rappelle pas quand c'était en 40, je crois aussi, ou en 41, enfin, un tout petit pamphlet sur le message éternel d'Akhenaton, du pharaon dit hérétique, du 14e siècle avant Jésus-Christ. Akhenaton's Eternal Message. Et personne n'y a compris grand-chose. C'est-à-dire, on l'a compris, mais on n'a pas compris l'intention qu'il y avait là derrière. Il y a des gens qui l'ont compris. Et ça, c'est les Japonais. Les Japonais ont dit à M. Mukherjee, eh bien, c'est une subtile propagande en faveur de la religion solaire. C'est tout à fait très bien, ça. Voilà ce qu'ils ont dit. Ensuite, j'ai écrit et publié un livre pour les enfants, ou plutôt pour les adolescents, Joy of the Sun, la joie du soleil. Joie du soleil, c'est la signification du nom du pharaon Akhenaton. Et c'est la vie et l'enseignement du pharaon Akhenaton exposé à des enfants de 14 ou 15 ans. Écrit très simplement, on va aussi le rééditer, je pense, en Inde. Mais je n'en suis pas sûre. Tout ça dépend des finances. En tout cas, il y a dedans des extraits, par exemple, il y a tout un hymne au soleil qui est attribué à Akhenaton, qui n'est même pas attribué, c'est une certitude, n'est-ce pas, historique. Cet hymne existe encore aujourd'hui, il a été inscrit dans son tombeau à Tell el-Amarna, en Égypte moyenne, ni du sud ni du nord. Tell el-Amarna est pas très loin de Malawi. Et là, à un endroit, il dit au soleil, tu as mis chaque homme à sa place. Tu les as divisés par la couleur de la peau et par la forme. Tu es comme un diviseur, tu as mis des races séparées. Il ne faut pas les mélanger. Le tout est tout à fait... Il base le racisme sur les lois naturelles, sur le soleil. Le soleil serait là, si vous voulez, l'origine du racisme, ce qui est vrai. Le soleil est l'origine de tout sur Terre. Ensuite, j'ai commencé, et j'ai fini beaucoup plus tard, alors un livre également sur Akhenaton, qui s'appelle « Un fils de Dieu, a son of God », qui est sa vie et son histoire, mais alors cette fois-ci racontée aux grandes personnes. Et il y a tout un passage, n'est-ce pas, que serait-il arrivé, tout un chapitre, que serait-il arrivé si la religion solaire, telle qu'il l'a prêchée, avec un fond scientifique, parce qu'il est un homme qui n'a pas seulement prêché une religion solaire, il a aussi prêché que les différentes formes d'énergie, le son, la lumière, la, la chaleur, etc., sont la même chose, ce que la science moderne enseigne. Et aussi que la matière et l'énergie sont au fond identiques. Alors, si ça savait pu se répandre, qu'est-ce que ça aurait fait pour l'avenir? Eh bien, j'ai dit, par exemple, que si seulement nous avions en Europe cette religion solaire, qui est la vraie religion arienne, et Akhenaton l'a probablement prise parce qu'il était lui-même moitié arien, dans sa famille, la famille de son père, il y avait une princesse mitanienne, et les mitaniens de l'Antiquité étaient des purs ariens. Qu'est-ce qui serait arrivé en Amérique? Les Espagnols, au lieu de massacrer les civilisations solaires de là-bas, celles du Mexique et celles du Pérou, pour leur imposer le christianisme, religion juive au fond, ils auraient dit aux chefs de l'Amérique, « Eh bien oui, vous adorez le soleil, ben nous aussi. » Ils seraient peut-être emparés de l'or, mais ils seraient emparés de l'or sans massacrer les gens au nom de la religion. Voilà les livres que j'ai écrits. Et puis, ensuite, 1945, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Réquisitoire contre l'homme », « Impeachment of Man ». Dans la préface, je dis, n'est-ce pas, que tant qu'il y aura que se connaîtront les atrocités de l'Antiquité pour être ému par ce qu'on attribue, les atrocités qu'on attribue à l'Allemagne en ce temps-là. Qu'on fond celles-ci, je les trouve, j'y croyais alors, je croyais qu'elles étaient véritables, je n'avais pas encore lu le livre de Christopher Sen, puis le livre de Butz, je ne connaissais pas ça, je croyais vraiment à tout ce que la propagande disait sur les juifs, enfin le traitement des juifs par l'Allemagne, mais ça m'était parfaitement indifférent. Et j'ai justifié ça dans la préface de mon livre sur les bêtes, n'est-ce pas? Et réquisitoire contre l'homme, c'est réquisitoire contre l'homme, ennemi des bêtes, ennemi de la nature, ennemi des forêts. Et alors je dis que tant justement que l'homme sera l'ennemi des bêtes et des forêts, moi je me fiche pas mal de ce qu'il peut faire à ses ennemis humains. Surtout si ses ennemis humains sont, n'est-ce pas, les miens en même temps, étant des ennemis de tout ce que je représente. Et j'ai dit que les soi-disant atrocités allemandes contre les juifs étaient de petites affaires amateurs, des petites actions amateurs comparées à ce que les juifs de l'Antiquité ont fait à leurs ennemis. La conquête de la Palestine, c'est quelque chose d'horrible. David sciant ses ennemis en deux après la prise de Rabba au 11e siècle avant Jésus-Christ, et puis faisant brûler les autres dans des fours à briques, et puis les atrocités de Samuel, coupant le roi Agag en morceaux sur une pierre plate, n'est-ce pas? Enfin, l'Ancien Testament est un recueil, l'un des plus beaux recueils que je connaisse, d'atrocités juives. Il y en a dans le Nouveau Testament aussi. Enfin, par ce ensemble là-dessus, voilà le livre que j'ai écrit. Je n'ai pas pu le publier tout de suite. Je l'ai publié 14 ans plus tard. Il était resté. Et puis, j'ai écrit après cela un autre livre qui s'appelle Akhenaton. C'est pas un livre, c'est une pièce de théâtre. C'est la seule pièce de théâtre que j'ai écrite. Et je l'ai écrite, celle-là, étant en Islande, en 1947. Entre-temps, je me préparais à aller en Allemagne. J'avais un passeport indien d'un instant-là, un passeport indien. qui allait être périmé, mais qui ne l'était pas encore. Et pour entrer en Allemagne, il fallait un permis militaire. C'était très difficile à obtenir. On mettait 6 mois à l'avoir. Moi, je fais ni une ni deux. Je me suis rappelé que j'avais été à l'école avec Georgette Soustel. Georgette Fago épouse Soustel. Je lui ai écrit que j'allais à Paris. J'ai fait imprimer un tas de propagande. Mais ce n'était pas la première propagande, parce que la première propagande, c'était une propagande écrite à la main. En Suède. J'étais en Suède en 47-48 avec la compagnie Ram Gopal, une compagnie de danse indienne. J'étais l'habilleuse de la compagnie. Et je gagnais 10 livres par semaine. Et avec ces 10 livres par semaine, j'avais acheté un tas de victuailles. Et puis j'avais écrit 500 fois sur un papier, n'est-ce pas, Sie sind das lautere Gold. Das sind schmelzige wie geworfen ist um die Probe. Erhalten Sie fest an unser erhabenen nationalsozialistischen Glauben. Also, es gibt nichts in der Pferde, die Sie zerstören kann. Quelque chose comme ça, j'avais écrit 500 fois. Et dans le train, partant de Suède et allant, alors, en Angleterre, mais à travers l'Allemagne, je suis restée une nuit et la moitié d'un jour en Allemagne, de Flensbourg à Aix-la-Chapelle. Dans le train, j'ai distribué ça, mes victuailles, une boîte de fromage avec un tract dedans, une boîte de sardines avec un tract dedans. J'ai distribué ça tout le long du chemin, 1500 kilomètres. Personne ne m'a trahi. Personne n'est allé dire... Voici ce qui tombe des fenêtres du Nord Express. On aurait fouillé le Nord Express et j'aurais été dans un camp de concentration allié. C'était l'occupation. Personne ne l'a fait.
Bonjour, madame.
Excuse-moi. Où est-ce que j'en étais? On m'a interrompu. Où est-ce que j'en étais? Oui, alors, personne ne m'a trahi et je suis rentrée en Angleterre. Mais avec la résolution de retourner en Allemagne, ce que j'ai fait... Le 11 septembre 48. Et alors, en 11 septembre 48, j'avais déjà commencé un livre qui s'appelle The Lightning and the Sun, La foudre et le soleil, qui ne sera fini qu'en 1956 et publié après en Inde. Entre-temps, j'ai écrit, étant en Allemagne, Golden Smelsiegel, das Golden Smelsiegel en allemand, le Golden the Furnace en anglais, l'or dans la fournaise. C'est mon premier livre d'après-guerre. L'or dans la fournaise, c'est ces hommes de d'or et d'acier que la défaite n'a pas pu décourager, que la torture et la terreur n'a pas pu briser, que l'argent ne peut pas acheter. C'est-à-dire les Hitlériens fidèles que j'ai rencontrés en Allemagne en 48-49 et puis après. Mon deuxième livre d'après-guerre, c'est Pilgrimage, le pèlerinage. Celui-là est de 53. Je suis retournée en Allemagne en 53 sous le nom de Portas, parce que j'étais interdite de séjour pour 5 ans sous le nom de Mukherjee. Après ma libération de prison, j'ai été arrêtée dans la nuit du 20 au 21 février 48 et envoyée à Verle. Et je suis restée à Verle en prison après mon procès du 5 avril 49. Je parle de 49, oui, 49. J'ai dit 48, c'est 49. Mm-hmm. Février 49. Et alors, Verle, mon procès du 5 avril. Et j'ai écrit immédiatement, après ma sortie de prison, et même Pas pendant, pas pendant. Après, je suis restée environ un an, quelques mois. Au lieu de 3 ans, j'avais été condamnée à 3 ans, mais l'intervention du gouvernement indien m'a fait rester un an seulement. J'ai écrit le défi, Defiance, qui est l'histoire de mon arrestation et l'histoire de mon séjour à Verne. Le troisième, c'est Pilgrimage, donc le pèlerinage, que j'ai écrit à mon retour en Allemagne, à visiter des endroits comme Braunau-sur-Lin, Landsberg, Nuremberg, Munich naturellement, Linz, enfin les endroits qui sont Nuremberg, les endroits qui sont célèbres dans l'histoire du national-socialisme, et aussi les Externstein, les Rochers du Soleil, grand centre de culte solaire dans l'Antiquité européenne nordique. C'était le lieu du soleil, non seulement pour les Allemands, mais pour les Scandinaves, pour tous les Européens nordiques dans l'Antiquité. Et puis, que dis-je encore, je ne me rappelle pas, enfin, le chapitre sur le monument d'Arminius, qui est aussi pas très loin des Externsteine, c'est-à-dire il est aux environs de Detmold. C'est assez loin, mais enfin, c'est pas tout à fait, c'est quand même dans la même région. Ensuite, je suis restée en Allemagne jusqu'en 57. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle, un livre, enfin, pas un livre, une série de poèmes. Il y en a quelques-uns. Ils y portent tous des dates. Et ce sont des poèmes qui reflètent l'histoire du national-socialisme et ma propre histoire à moi, ou du moins l'histoire de mes pensées, de 1932 à 1954. Je ne me rappelle pas. Enfin, il y en a 11 de ces poèmes en prose. Il y en a un que je me rappelle, que j'ai recopié et que je lirai plus tard si vous le voulez. Mais pour le moment, il y a ce livre-là. Il n'a jamais été publié. Et puis, j'ai écrit aussi, mais alors à mon retour des Indes, je suis allée aux Indes en 57. Ah, là aux Indes, j'ai travaillé. J'ai travaillé comme interprète de chantier au service d'ingénieurs allemands qui faisaient un Seilbahn, enfin un funiculaire aérien pour descendre du minerai de fer du sommet d'une montagne jusqu'au chemin de fer. Et là, j'ai commencé à écrire, du moins. Long Whiskers and the Two-Legged Goddess. Le moustachu et la déesse à deux pattes. Histoire vraie d'une affreuse nazie et d'une demi-douzaine de chats. C'était l'histoire de mes chats à moi. Les chats que j'ai eus étant aux Indes. Et dans quelques-uns, et pas seulement aux Indes, parce que j'en ai eu aussi en Europe, j'en ai eu deux en Europe, c'est leur histoire aussi. Enfin, il y a en effet une demi-douzaine de chats dedans, qui sont les réincarnations les uns des autres. Et il y a en même temps mon histoire à moi. Alors, le titre est justifié. L'expression une affreuse nazie n'est pas de moi. Elle est du colonel Vickers, chef de la prison de Verne, dans laquelle on m'avait confisqué, parce que j'avais eu la permission du personnel, mais pas naturellement du directeur, d'écrire. Et j'ai commencé justement à Verne, en prison, mon livre L'or dans la fournaise. Il était déjà, enfin, je l'ai fini là, parce que je l'ai commencé en liberté en Allemagne, je l'ai fini là. Et un beau jour, on a cherché ma cellule et on l'a confisquée. Et j'étais désespérée. J'ai pleuré et pleuré parce qu'on l'avait confisqué. Et surtout que le directeur m'avait dit très brutalement, s'il est subversif, on le détruira naturellement. Et Dieu sait s'il est subversif. Dieu sait s'il est subversif. La fin du chapitre 7 de ce livre, L'or dans la fournaise, est le suivant, la fin, les dernières lignes. Plutôt Dieu qu'un jour, non seulement les démocrates, mais les communistes eux-mêmes regrettent amèrement de ne pas en avoir tué davantage d'entre nous. Parce que nous espérons naturellement prendre la revanche. Et ils ont passé là-dessus, ils ne l'ont pas détruit. Je croyais qu'ils allaient le détruire. En réalité, ils ne l'ont pas fait. J'ai pleuré et pleuré, et puis ensuite je me suis dit, c'est lâche de pleurer. Gémir, prier, pleurer est également lâche, dit déjà Alfred de Vigny. C'est surtout lâche pour une hitlérienne. Alors j'ai fait des exercices de yoga que j'avais appris en Inde, et j'ai répété un mantra, c'est-à-dire une parole sacrée en sanskrit. Et j'ai fait ça 21 fois de suite tous les jours. Au bout exactement de 21 jours, on m'a rendu mon livre. Miracle. Je ne sais pas comment on m'a rendu, mais on me l'a rendu. Il a été publié aux Indes. Mais avant qu'on me le rende, le 10 juin, je suis allée, pas me jeter aux pieds, mais implorer le colonel Vickers de me le rendre. Il a refusé naturellement. Il m'a dit, pensez-vous, vous ne croyez pas à la miséricorde, vous autres. Je sais très bien que vous êtes pareil aux autres, et même pire que les autres. Savez-vous que vous êtes le pire type de nazi que j'ai jamais rencontré? Et j'étais ici en 1945. Et je suis en effet qu'en 1945, dans sa prison de Verle, il avait comme pensionnaire 11 000 membres de la SS. Je me suis dit, si je suis pire que 11 000 membres de la SS, eh bien très bien, je me félicite. Et j'étais tellement joyeuse, tellement contente que j'en ai oublié mon livre. Et j'ai mis la tête en bas, et la surveillante qui est venue avec moi voir le directeur, Frau Riedel, m'a dit, pourquoi vous mettez la tête? J'ai dit, pour que le colonel Vickers ne voit pas que je rayonne de joie à ses paroles. Voilà.